Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le Ravi Radio Grenouille. Le mensuel Le Ravi, c'est dans tous les kiosques de la région. Les premiers vendredis du mois, la Grande Tchatch, c'est tous les quatrièmes samedis du mois sur les 3-8. Le Ravi, c'est également un site internet www.leravi.org, site où vous aurez accès à certains articles, mais aussi la possibilité de vous abonner en ligne. N'hésitez absolument pas à le faire. Alors pour ce numéro de la Grande Tchatch, un habitué des unes et des premières pages, presque malgré lui, c'est Jean-David Ciot qui a le job le plus chouette du département depuis quelque temps. Il est le premier secrétaire de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Jean-David Ciot, bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission présentée par Michel Guéraud et Raffi Amal. C'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
89% des voix. Lorsqu'il a fallu, en plein cœur de l'été, désigner un nouveau premier secrétaire de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, vous avez fait un triomphe. Enfin, au moins auprès des militants qui ont voté, 30% des 9000 adhérents. Vos camarades sont facétieux. Ils ont sans doute préféré aller à la plage. Le même jour, il s'agissait pourtant aussi d'entériner le contrat de rénovation censé redonner un peu de rose aux joues de la Fédé 13. Elle en a bien besoin. Enfin, quand même, quel manque d'enthousiasme! Premier secrétaire de la Fédé 13, l'une des plus puissantes de France. Un titre qui a fait longtemps rêver plus d'un. C'est curieux, ils ne sont pas très nombreux ceux qui vous envient à l'heure actuelle. Va comprendre, pourquoi personne ne rêve d'avoir été capitaine du Titanic dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, par exemple? Vous n'êtes pas marin de profession, mais expert comptable. Votre goût pour les chiffres et l'expertise a jalonné votre carrière politique. À 27 ans, vous devenez directeur de cabinet d'Henri Dattilio, le sénateur-maire de Châteauneuf-lès-Martigues. À 33 ans, vous êtes sacré trésorier de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, déjà. Le président du Conseil Général, Jean-Noël Guérini, fait de vous l'un de ses conseillers techniques. Jean-Noël Guérini, celui dont il fallait absolument être proche, celui avec lequel mieux vaut ne pas trop s'afficher par les temps qui courent. Le temps des commissions d'enquête interne, celui des mises en examen pour association de malfaiteurs, celui des injonctions de démission par la direction nationale du Parti Socialiste. Une direction qui, la semaine dernière, vient de décider qu'elle désignerait seule les candidats aux prochaines législatives. Une façon de placer votre fédération quasiment sous tutelle en la privant du pouvoir d'investiture. Alors, comment reprendre la barre? Comment démentir ceux de vos amis qui affirment que vous avez toujours été et que vous êtes toujours l'homme de main de Jean-Noël Guérini, le chef incontestable de plus en plus contesté? Méfiez-vous, ceux qui vous ont précédé à la tête de la Fédé 13 ont dû faire souvent à de terribles tempêtes. Michel Pesé, François Bernardini, Eugène Caselli sont même tous entrés en dissidence. Comme vous, bientôt?
Jean-David Ciot, commentaire à ce portrait? À la sauce Ravi, hein, je tiens à le signaler.
Vous en avez oublié un, c'est Guy Bonneau, mais qui est oui. Dans le même cas. Oui, je ne sais pas si c'est... On pourrait même rajouter Yves Vidal, d'ailleurs, qui est aussi dans les mêmes conditions. Ça ne les a pas empêchés, ceci étant, de faire de brillantes carrières politiques. Et on n'est pas forcément, d'ailleurs, toujours d'accord avec le parti. Est-ce qu'on doit forcément rentrer en dissidence pour exister dans les Bouches-du-Rhône? C'est au fond ça la vraie question. Je ne le crois pas. Certains ont été enlevés par des affaires judiciaires, d'autres parce qu'ils ont arrêté leur vie politique. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est dans une période compliquée pour le Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône. Je l'ai toujours dit, je l'ai indiqué en son temps. On est chargé, et j'ai accepté, le parti au niveau national, le 5 juillet, m'avait demandé de mener cette opération de rénovation, de dire comment on pourrait, dans les Bouches-du-Rhône, faire de la politique autrement. Et de dire comment on pourrait faire passer un certain nombre de mesures dans nos structures. C'est ce qui a été voté. Le parti au niveau national m'avait désigné comme premier secrétaire. J'ai toujours dit que le respect du vote des militants était essentiel et qu'il fallait faire adhérer les gens, sinon on le faisait contre eux. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait un vote des militants le 21 juillet. Alors en plein mois de juillet, c'est vrai, donc c'était peut-être pas propice au vote, mais il fallait quand même mettre en place la rénovation assez rapidement. On avait les primaires à la rentrée qui se sont bien passées. Je crois que
on va revenir en détail là-dessus, Jean-David Ciot, mais rentrons tout de suite dans le cœur du sujet. Là, vous avez évoqué la rénovation. Apparemment, le PS national, la rue Solferino, a décidé du gel des circonscriptions et elle a jugé finalement que cette rénovation que vous appelez de vos voeux n'a pas eu lieu, n'a pas été assez loin puisque la fédération est en quelque sorte mise sous tutelle.
Je ne sais pas si la fédération est mise sous tutelle puisque nous continuons à la gérer avec la collégialité. Ce qui est vrai, c'est
mais là,
que
là,
ce qui est
vrai, c'est que sur l'air du temps,
sur le, oui, enfin, je pense que l'air du temps sur l'organisation d'une élection présidentielle, il y a des choses plus simples à gérer dans le temps que cette organisation-là. Donc, il y aura quand même toute la question de l'organisation de la campagne des élections présidentielles et de François Hollande pour faire en sorte que la gauche gagne le 6 mai prochain. Et je crois qu'il y a vraiment à s'atteler, y compris dans ce département et dans cette ville de Marseille, à ce combat-là. Sur la question des désignations, qui est toujours un moment où tout le monde est candidat, où beaucoup de gens sont candidats, légitimement, pour la plupart des candidats. Et effectivement, ça peut être aussi une source de division. La décision de Martine Aubry, que je regrette, je l'ai dit publiquement, je m'en suis expliqué avec elle et avec un certain nombre de responsables politiques au niveau national. Je considère que c'est pas tant la fédération qu'on met sous tutelle, parce qu'au fond, la discussion continue, elle est permanente avec le national, les acteurs locaux. Ce qu'on prive d'une expression, ce sont les militants qui ne pourront pas, parce que tout ce qu'on a supprimé, c'est le vote des militants. Je trouve ça pas correct pour eux, pour l'expression qu'ils pourront faire, d'autant plus qu'on aurait pu trouver d'autres solutions, je l'avais indiqué. On aurait pu dire s'il y a un ou deux endroits où ça pose un problème, parce que les personnalités des uns sont trop compliquées avec les personnalités des uns, c'est plutôt compliqué à régler. Réglons ces personnalités-là, réglons ces circonscriptions-là, mais ne prenons pas en otage toute la fédération.
Vous avez été le seul au bureau national à vous abstenir, vous n'avez pas voté contre.
Il est difficile de voter. Le vote porté sur l'accord avec les Verts, sur la totalité de l'accord avec les Verts. Donc je ne peux pas dire que je suis contre un accord avec les Verts, ni sur la forme, puisqu'il y avait les circos qui étaient dedans, même si sur cette question-là, la Bouche-du-Rhône n'était pas citée. Donc je ne peux pas voter un accord. Je ne peux pas aller contre un accord national, parce que c'est quand même un enjeu pour gagner les élections. Je ne peux pas à la fois voter pour, puisqu'il n'y avait pas la question des Bouches-du-Rhône qui était réglée.
Alors, vous donnez un petit peu l'impression d'être le dernier des Mohicans. Spontanément, une question, pourquoi Jean-David Ciot, pourquoi finalement ne pas... pourquoi toujours soutenir ou en tout cas au mieux vous abstenir?
Non, j'étais pas. Enfin, le dernier des Mohicans, je crois que c'était au mieux m'abstenir, tout simplement parce que je pense que je ne peux pas voter un texte. D'ailleurs, je l'ai indiqué à Sylvie Andrieux et Patrick Menucci qui ont voté ce texte-là. Je ne peux pas voter un texte où je ne sais pas, dans les Bouches-du-Rhône, c'était la seule fédération avec l'Hérault, je crois, où on n'avait pas, où il n'était pas indiqué les réservations qui étaient faites pour les Verts. Donc moi, je veux bien voter quelque chose, encore faut-il que j'ai à voter quelque chose. Donc sur la question des Bouches-du-Rhône, c'était, il n'y avait pas écrit quelles sont les circonscriptions. Comme j'ai dit d'ailleurs à Patrick Minucci, si on réserve la 3 et la 4, demain, qui sont les circonscriptions dans lesquelles ils sont candidats, on serait peut-être embêté.
Alors, venons-en aux raisons qui ont poussé donc le bureau national du Parti Socialiste à prendre cette décision. En gros, enfin, pour parler clair, c'est la question de Jean-Noël Guérini qui est posée avec la demande de démission qui n'est pas suivie des faits et le sentiment peut-être que Jean-Noël Guérini pourrait avoir une influence sur ces décisions. C'est bien ce qui est en jeu.
Je ne sais pas si en décidant des choix des candidats à Paris, de tous les candidats des 16 circonscriptions, on règle la question qui est posée à Jean-Noël Guérini sur le Conseil Général. Je ne crois pas que ces choses-là soient liées. Elles peuvent avoir une influence sur une ou deux des circos, eu égard aux personnalités des uns et des autres, ça c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il était peut-être urgent de dire qu'il y a une ou deux circos sur lesquels on réserve la décision au national. Et sur l'ensemble du reste, on reste sur un vote sur la totalité des Bouches-du-Rhône.
La démission de Jean-Noël Guérini, vous ne l'avez pas appelé de vos voeux ?
Non, mais je crois que je l'ai dit depuis très longtemps sur cette question-là. Elle relève des conseillers généraux. Je ne vais pas aujourd'hui changer d'avis.
Enfin, vous gérez quand même la fédération et à ce titre, vous subissez indirectement la bonne ou la mauvaise image que peut avoir le président du Conseil général socialiste.
Oui, mais ça, c'est pas ce qui fonde le choix de la demande de démission. Ce qui doit fonder le choix de la demande de décision, ce sont des règles claires et applicables pour tous. Voilà. Moi, je pense que la justice, elle ne se fait pas de casuistique, c'est pas la règle en France. Elle se fait pour tout le monde. Donc, soit on a des règles claires qui disent que quand des élus sont mis en examen, pour tel et tel chapitre. On n'est pas, on peut aussi faire preuve de discernement. C'est ce que d'ailleurs a engagé le rapport Richard. On prend une règle pour tout le monde. Les gens qui ont été condamnés une première fois, ils n'ont plus le droit d'être candidats au titre du Parti Socialiste. Les gens qui sont mis en examen pour tel et tel fait, ils sont plus... Mais aujourd'hui, il n'y a pas de règle. On est en train de fabriquer une règle pour Jean-Noël Guérini où il devrait être condamné avant l'heure. La seule règle aujourd'hui que je connaisse qui a toujours été appliquée au Parti Socialiste, quels qu'aient été les élus, y compris quand c'était François Bernardini qui gérait cette fédération et qui était mis en examen sur des chapitres importants puisqu'il a été condamné par la suite, on a toujours dit que la présomption d'innocence valait. Donc soit on change cette règle, mais on l'applique à tout le monde, soit on l'applique, y compris à Jean-Noël Guérini. C'est tout ce que je dis. Concernant la présidence du Conseil Général, elle relève au mois de mars de la responsabilité des conseillers généraux, dont j'ai bien vu qu'ils avaient tous voté pour Jean-Noël Guérini, les socialistes, même au-delà, puisqu'il y a même des voix qui se sont portées sur sa présidence, donc il doit être quand même là aussi, je pense qu'ils ont jugé sur la qualité de la manière dont ils gèrent le Conseil général. Concernant l'avenir, ça maintenant, la décision lui appartient. Je l'ai toujours dit, j'avais attiré d'ailleurs l'attention du National quand on a abordé ces questions-là, où j'avais dit, la question lui appartient à Jean-Noël Guérini de se mettre en retrait. C'est pour ça que j'ai continué à essayer de le voir et de le rencontrer pour dire qu'est-ce qui était bien pour protéger le parti. Moi, j'ai toujours dit le fait qu'il se mette en retrait du Parti socialiste, ce qu'il a fait, en commun accord avec les responsables socialistes, était de nature à protéger le Parti socialiste. D'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné pendant la primaire, je l'ai toujours dit. Donc aujourd'hui, c'est de sa responsabilité. Il est un des rares élus à l'avoir fait. Il y a des tas d'élus aujourd'hui qui sont soit en examen.
Là, vous vous placez sur le terrain juridique, mais sur le terrain parce que vous avez également un rôle moral. Vous êtes premier secrétaire de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Sur le terrain moral, on n'a pas l'impression non plus que cette fédération et son premier secrétaire, en l'occurrence vous battiez vraiment sur pour condamner un tel qui a été condamné, je pense notamment à Granier, pour dire à Jean-Noël Guérini, ça suffit au niveau de la morale, avec tout ce qui sort au quotidien, il faut peut-être arrêter. Non, on ne vous entend pas, vous vous placez de manière extrêmement neutre sur le plan judiciaire.
Je me place à chaque fois sur des règles qui sont applicables pour tous. Sinon, c'est un autre choix que je fais. Je peux dire, ah ben Bernard Granier, lui, il est sous le coup de la présomption d'innocence, ou Sylvie Andrieux.
Vous n'avez pas condamné d'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas condamné
Ou Sylvie Andrieux, mais Jean-Noël Guérini, lui, il est sous le coup de la culpabilité, ou vice-versa.
Donc est-ce qu'aujourd'hui vous condamnez, par exemple, le maintien de Granier
Aujourd'hui, je reste sur la seule règle, sauf si les socialistes la changent, c'est la position qui est la mienne, c'est la seule que je connaisse qui soit à la fois respectueuse des personnes, des procédures et d'un engagement collectif. Donc l'engagement collectif du Parti Socialiste a toujours été, d'ailleurs de tous les partis politiques, je l'entends bien sous la Ve République, le président de la République l'a encore rappelé pour les siens il y a quelques temps, aux grandes dames de certains ici qui voudraient qu'on fasse des choses différentes pour les uns et pour les autres. La question c'est, tant que les gens ne sont pas condamnés définitivement, ils sont présumés innocents. C'est une règle constitutionnelle qui est nécessaire aujourd'hui de faire appliquer. C'est tout, et je ne me réfugie de rien. Le jour où les gens sont condamnés, j'ai toujours dit définitivement, il faudra prendre toutes les responsabilités et les exclure du parti.
Il y a des conseillers généraux qui, je pense à Marie-Arlette Carlotti, ils ne sont pas très nombreux effectivement pour l'instant, qui disent on ne remet pas en cause la présomption d'innocence, mais on juge que politiquement, Jean-Noël Guérini, vu les circonstances, vu ce qui sort, vu le motif de la mise en examen, association de malfaiteurs, prend en otage l'image des socialistes des Bouches-du-Rhône et prend le risque d'une aventure personnelle. Et quand l'instance nationale et votre futur candidat à la présidence de la République lui demande de démissionner et qu'il refuse de le faire, est-ce qu'on n'est pas là, aujourd'hui, dans une aventure personnelle ?
Moi, à partir du moment où Jean-Noël Guérini s'est mis en retrait du Parti Socialiste, je considère que cette question-là est réglée pour le Parti Socialiste. C'est ce qui me permet de gérer la fédération et de continuer à trouver un consensus sur la gestion de la fédération. Et c'est au fond ça qui m'importe pour pouvoir préparer à la fois l'avenir et les élections à venir. Sur la question du combat personnel ou pas de Jean-Noël Guérini, ça ne serait un combat personnel que s'il n'avait plus de majorité au Conseil général. Donc aujourd'hui, je constate que séance après séance, il a toujours une majorité au Conseil général. Que certains, pour régler des ambitions personnelles, veuille la peau de Jean-Noël Guérini pour pouvoir exister, ou pensant que ça va les dédouaner d'une responsabilité politique quelconque sur ce qui s'est passé dans l'histoire, où ils ont quand même voté toutes ces délibérations. Je pense qu'ils ont tort. Voilà. La solidarité en politique, c'est quand même le seul moyen de prendre des décisions collectivement et qui s'appliquent. Donc, moi, je le dis, si certains ont des ambitions, je vois bien les calculs. J'ai eu droit à Arnaud Montebourg, à 15 jours des élections cantonales, venant nous expliquer qu'il fallait tout casser.
Quand vous dites certains, vous avez des noms à proposer, parce qu'on ne va pas parler toi pendant toute l'émission, quoi.
Non, mais je pense à Marie-Arlette Carlotti. Je vois bien qu'elle essaye de se dédouaner de ces affaires-là. Comme je lui rappelais récemment, elle a voté au mois de mars pour réélire Jean-Noël Guérini. Donc, dont acte. Donc, il faut assumer ses décisions, il faut assumer ses choix et ses votes. Et aujourd'hui, prendre des règles qui puissent être appliquées pour tous. Et c'est ce que j'essaye de faire pour faire en sorte que à la fois la fédération se rénove et à la fois qu'elle n'explose pas.
Alors, Jean-Noël Guérini, aujourd'hui, puisque c'est la vedette du jour, son nom est devenu quasiment une insulte. On a vu Michel Boisel qui se plaignait que l'opposition, ou la majorité plutôt, à l'Assemblée nationale, criait « Guérini, Guérini » chaque fois qu'il prenait la parole. Vous, à titre personnel, Jean-Noël Guérini, ça reste votre ami ?
Jean-Noël Guérini n'a été ni mon ami ni pas mon ami. Jean-Noël Guérini était un leader politique. Je peux toujours considérer qu'en politique, on n'avait pas d'amis, même
c'est
dans
pas
son
votre
parti.
Ami, donc.
Mais c'est pas une question d'être ami ou pas. C'est un leader politique. Ça a été un leader politique qui a créé de l'espoir pendant 10 ans dans ce département. Aujourd'hui, son image est écornée par des affaires judiciaires qui touchent son frère, dont acte, pour lui, il en a tiré quand même un certain nombre de leçons, et je l'en remercie de ce point de vue-là, je l'ai toujours dit, notamment sur sa mise en retrait du parti, je le constate, mais tant que c'est le cas, je le constate. Mmh. Voilà, c'est ça la vraie question. Sur la question de savoir si c'est mon ami ou pas, je garde, moi, le clairvoyant en me disant que dans l'histoire, y compris ceux qui déclarent aujourd'hui qu'ils ont toujours été opposants à Jean-Noël Guérini. Moi, je me rappelle qu'on a mené des combats difficiles en 2004 pour préserver, alors qu'on était attaqué par Jean-Claude Gaudin sur un découpage inique. C'est grâce à Jean-Noël Guérini et son équipe qu'on a maintenu la présidence du Conseil Général pour les socialistes. En 2008, pareil, qu'on a failli gagner la mairie de Marseille, ce qui est quand même pas rien. Hein, depuis Gaston Defferre et Vigouroux, personne ne l'a fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a eu cet espoir-là. Ne le renions pas. Prenons acte, effectivement, d'une grande difficulté liée aux affaires judiciaires pour Jean-Noël Guérini, mais on n'est pas obligé non plus de le pendre avant les juges.
Restons un petit peu encore sur ces affaires, elles sont nombreuses, variées, extrêmement variées. Vous étiez au courant de rien sur tous ces détournements, sur toute cette gestion. Le fait, par exemple, que l'épouse de Jean-Noël Guérini soit l'avocate d'Habitat 13, vous étiez au courant ?
Non, mais je suis membre du
siège. Quel était actionnaire également ? Vous n'étiez pas au courant non plus ?
D'Habitat 13 ?
Oui. Enfin, pas d'Habitat 13, mais enfin...
De 13 Habitat, pardon.
Ouais. Ouais, quelle a été, en tout cas, l'avocate de la structure du Conseil Général ? Alors, quelle est l'épouse du président du Conseil Général ? Vous n'étiez pas au courant ?
Non, objectivement, j'aurais des difficultés à être au courant de décisions dans des organismes auxquels je ne siège pas. Je ne siège pas à 13 Habitat.
Vous étiez au cabinet de Jean-Noël Guérini ?
Oui, j'étais au cabinet de Jean-Noël Guérini sur l'évaluation des politiques publiques. Donc je peux dire aujourd'hui, avec le recul, hein, c'est un des fondements du fait que j'y sois resté, c'est que les politiques publiques qui ont été menées pendant 12 ans sont des politiques publiques de très bonne qualité. Je vais pas revenir, pas vous faire l'inventaire de ce qui se passe en matière de collège, en matière d'environnement, mais quand même, donc sur le 13 Habitat, non, je découvre. Après, à la justice de dire, soit il y avait un conflit d'intérêts. Et dans ce cas-là, il faut ou le sanctionner ou l'interdire. Soit c'était elle avait le droit de soumissionner, il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, elle peut exercer sa profession d'avocate. Mais là, en l'occurrence, moi, je ne le savais pas.
Mais vous trouvez ça condamnable, choquant, indifférent ?
Non,
comment vous situez ?
Je trouve qu'on devrait. Alors, sur le plan de la morale, je considère que on pourrait s'éviter ce genre de choses. Voilà, parce que ça donne le sentiment que les hommes politiques favorisent les leurs. Je ne sais pas si c'est le cas, en l'occurrence, sur cette affaire-là que je ne connais pas, mais ça peut donner ce sentiment-là. Donc peut-être, effectivement, d'ailleurs, la question s'était posée pour Wörth et son épouse à un moment donné. Ce n'était pas interdit, c'est ce que répondait Wörth, et il avait raison sur ce point-là. Après, on peut se poser la question si le législateur ne devrait pas trancher un certain nombre de conflits d'intérêts avec les ascendants, ou au moins avec les foyers fiscaux identiques, parce qu'il y a peut-être, enfin, il y a des manières... technique de régler ses affaires de conflit d'intérêts.
Cette fédération a toujours la réputation, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, je vous pose la question, les gènes pèsent toujours davantage que les compétences à la Fédé 13 ?
Je ne sais pas si les gènes pèsent toujours, mais je constate quand même qu'il y a de moins en moins de filiations. Ça veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'il y en a de moins en moins. Je constate que les grands noms ou les grandes dynasties de noms ont quand même tendance à être moins représentées.
Je cite Michel Boisel qui préside l'ordre de grande institution locale qui est aussi socialiste. Et pour mettre en rapport un peu ce que vous nous dites aujourd'hui et puis ce qui se dit autour de vous, hein, dans vos rangs, il dit que c'est au parti de prendre de vraies responsabilités, de demander à Jean-Noël Guérini de prendre des décisions qui ne pourrissent pas la campagne de François Hollande. Vous avez une position qui paraît assez théorique en disant bon, il faut laisser la justice mener son cours, d'accord, mais et perdre toutes les batailles qui sont devant vous. Il y a quand même la bataille des municipales qui s'approche. Est-ce que vous pensez sérieusement, par exemple, à Marseille, pour ne parler que de Marseille, mais que le PS va être en mesure de se battre pour emporter cette ville dans ces circonstances-là, avec Jean-Noël Guérini en poste, des injonctions de tous les côtés ou de...
Oui, mais les responsabilités, moi je le réindique, ce que je peux gérer, c'est ce qui se passe au Parti Socialiste. Je ne peux pas gérer ce qui se passe au Conseil Général, comme si demain certains demandaient la démission de Michel Vauzelle parce que des affaires touchent à la région sur des financements d'associations, je serais bien en peine de dire à Michel Vauzelle, il faut qu'il démissionne, il doit démissionner. C'est de sa responsabilité, c'est lui le président de la région, donc je ne le ferai pas. Ce que je crois, et ce qu'il m'est important, c'est de se dire que comment on peut essayer de préparer, comme on l'a fait pour les primaires, parce que j'ai bien senti que la question se posait à la fois pour les cantonales d'ailleurs et à la fois pour les primaires. Elle s'est posée pour les régionales aussi d'ailleurs, où on était, je vous rappelle, pendant les régionales, au cœur des affaires, on nous annonçait un certain nombre de grands tremblements de terre, le choix à chaque fois de saisir la justice au moment opportun, il faut quand même le regarder, hein. Je vois bien quand même qu'il y a quelques petites manœuvres de la part de la droite locale qui essaye d'instrumentaliser ce genre de choses. Je ne crois pas que ça soit bien. Ce que je crois, c'est que là, en l'occurrence, les Français, et notamment les Français de gauche, au moment des primaires, n'ont pas tenu compte de ces affaires-là, puisque il y a quand même eu pratiquement 80 000 personnes qui sont déplacées dans les Bouches-du-Rhône, ce qui est largement aussi bien que ce qui s'est passé au niveau national en pourcentage. Donc sur les primaires, ils sont venus voter comme ils en avaient envie, c'est l'engagement que j'avais pris du respect démocratique.
Au cantonal, par contre, il y a eu quelques dégâts collatéraux
des primaires. Ils ont pu voter. On avait déjà engagé l'acte de réélection sur les primaires. Voilà, donc après, moi, ce que je souhaite, c'est que sur la campagne des présidentielles, on puisse avoir un vrai travail qui soit celui à la fois du fond, d'explication quand même de ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy pendant ces 10 dernières années, et à la fois des propositions du Parti Socialiste et du candidat socialiste François Hollande, et qu'on puisse engager...
C'est compliqué, Jean-David Sciot, de ne pas être parasité chaque fois que vous allez ouvrir la bouche et Jean-Noël Guérini et le Conseil Général.
Oui, mais on l'est depuis un certain nombre de temps sur un certain nombre d'affaires. Je pense que les Français sont quand même plutôt lucides sur ces questions-là. Ils savent faire la part des choses entre l'élection de François Hollande ou des parlementaires. La question se reposera sur Marseille. Hein. Je ne veux pas éluder la question, mais en tout cas, sur les élections, les échéances qui sont devant nous, je veux que les Français sont assez lucides sur à quoi sert. En plus, je le redis.
Alors, oui.
Non, je le redis, ce ne sont que la responsabilité d'un président de conseil général. Il me semble que ce n'est pas du niveau d'une présidentielle. Voilà, je sais que ce n'est pas partagé par un certain nombre d'acteurs.
Quatrième fédé de France, quand même.
Oui, mais enfin, ça reste qu'un président de département. Voilà.
Alors, je cite un autre socialiste qui préside une autre institution. Indignez-vous contre une situation, c'est Eugène Cazelli, hein, qui était à votre poste il n'y a pas si longtemps que ça. Indignez-vous contre une situation qui fait de vous les otages d'une présidence en opposition avec les instances nationales du Parti Socialiste, la collectivité régionale et la communauté urbaine, toutes deux dirigées par des socialistes. Ça, c'était le 13 novembre, donc c'est tout récent. C'est Eugène Cazelli.
Enfin, c'est Eugène Cazelli. Déjà, il faut qu'il parle d'otages. Très étonnant.
Vous êtes quand même au milieu de tout ça. Enfin, comment votre position, c'est de regarder les coups partir de tous les côtés, de dire bon.
Vous n'avez pas envie de dire regardez dans le rétro ceux qui critiquent aujourd'hui.
Non, mais ça je l'ai dit. Je ne vais pas le redire. Je considère que ceux qui aujourd'hui considèrent que Jean-Noël Guérini est la pire des choses sur la manière de gérer, parce que là on s'occupe pas des affaires, on s'occupe de la gestion de la cité quand même, hein, à la fois de l'argent du Conseil Général, de l'argent de la communauté urbaine, de l'argent de la ville de Marseille. Donc je leur dis regardez comment vous avez été élu, regardez.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que
regardez
finalement,
comment
vous parlez toujours.
Je voudrais finir sur la question. Si vous posez des questions, je réponds pas.
Mais donnez des exemples précis.
Je voudrais finir sur Eugène Cazelli. Sur Eugène Cazelli, la vraie question qui est posée par Guérini, on peut s'offusquer de la manière, de la méthode, même si dans le temps on s'en est peut-être servi justement pour arriver à certaines fins. Aujourd'hui, sur les questions quand même qui sont posées, moi je le dis très clairement, sur la gouvernance partagée notamment, sur Marseille, est-ce qu'on est à un moment donné où on règle les problèmes des Marseillais? Est-ce que c'est la faute à Jean-Noël Guérini parce qu'il serait dans une procédure judiciaire si les Marseillais ont le sentiment que Marseille n'est pas plus propre qu'avant? Si responsabilité effectivement de Eugène Cazelli sur la question du déplacement, sur la question
ça,
non, c'était la question du déplacement qui posait un vrai problème. Sur la question du déplacement sur Marseille, est-ce qu'on considère que les choses s'améliorent et est-ce qu'on doit continuer à faire un tramway au-dessus d'un métro? C'était la question essentielle quand même qui a été posée pendant les dernières élections municipales et on continue pour essayer de ménager la chèvre le chou entre M. Godin et M. Cazelli. Je ne sais pas, c'est une vraie question. La question de la sécurité à Marseille, est-ce qu'elle est réglée? Est-ce qu'aujourd'hui, on considère, parce qu'on n'en parle plus, parce que tout le monde est tétanisé, la question de la sécurité sur Marseille, qui est quand même un vrai problème, n'est toujours pas réglée. Donc moi, la question des Marseillais, qui est celle-là, je préférerais que Eugène Caselli, plutôt que de répondre à Jean-Noël Guérini, qui pose la question de l'aménagement du Vieux-Port, Guérini, je ne sais pas, alors là, pour le coup, sur l'aménagement du Vieux-Port, je ne suis pas très concerné en tant qu'élu, mais il pose une question en disant, vous utilisez l'argent du Conseil Général, je ne suis pas au courant. D'abord, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Caselli aurait pu dire, on a fait des réunions sans vous, on a fait des réunions avec vous, on veut pas discuter avec vous, mais on veut votre argent. Il aurait pu déjà répondre sur le fond, ce qui aurait été quand même un premier acte. La deuxième, sur le déplacement, pareil. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à faire un tramway sur un métro? Moi, je pose la question, y compris à mes camarades socialistes, sur les questions d'aménagement de Marseille. Je veux bien qu'il y ait des accords pour faire exister les collectivités. La question essentielle, c'est quand même ça, j'ai pas eu de réponse. Et je trouve dommage parce que Jean-Noël Guérini, qui alors là pour le coup peut-être paye ce que vous disiez tout à l'heure en disant il ne peut plus parler sans que ça soit sujet à caution, là en l'occurrence, mais quand même les questions qui sont posées, moi je le dis sur Marseille, il faudra quand même qu'elle trouve une réponse, parce que nous serons jugés, vous parliez des municipales tout à l'heure, nous serons jugés sur le bilan de la communauté urbaine en 2014, et le prochain candidat socialiste sera jugé aussi sur le bilan de la communauté urbaine. Donc est-ce qu'on aura progressé ou pas? Là, on peut quand même, on m'a posé la question, d'autant plus quand on est président du Conseil Général, et que le Conseil Général met 250
aujourd'hui, euros. Eugène Caselli, vous paraît-il légitime pour critiquer Jean-Noël Guérini, vous avez tout à l'heure commencé à dire quand on connaît son élection, la manière dont il a été élu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je considère que Eugène Caselli est légitime s'il aborde les sujets des Marseillais. S'il nous explique ce qu'il va faire pour la propreté. S'il nous explique ce qu'il va faire pour le développement économique. S'il nous explique quel est pourquoi on est dans l'ambiguïté sur le fait qu'on ait dit non pendant toute la campagne à la supervision du tramway et du métro et qu'on continue à le faire, notamment entre Noailles et Castellane. Alors, je considère qu'il est légitime. Après, pour critiquer Jean-Noël Guérini, j'indiquais tout à l'heure que certains se sont déclarés des opposants historiques de Jean-Noël Guérini alors qu'ils ont été leur directeur de campagne. Je vois bien que Eugène a été premier secrétaire de cette fédération en plein accord avec Jean-Noël Guérini. Il a été directeur de campagne dans le 4-5 de Jean-Noël Guérini, candidat lui-même. Bon voilà, après, l'histoire fait que...
Vous pensez qu'il partage avec lui, entre guillemets, je mets les guillemets, les casseroles qu'il pourrait porter?
Mais je pense que globalement, tous les socialistes, quels qu'ils soient, porteront les choix qui ont été faits, bon et mauvais, et que la solidarité est toujours meilleure que le fait de dire « Ah non, mais moi, ça, je ne suis pas responsable. » Personne croira et personne ne croit qu'il n'y ait pas une responsabilité collective quand on a été premier secrétaire.
Un exemple concret, celui de l'incinérateur. Alors, Jean-Noël Guérini était pour un moratoire. On apprend depuis quelque temps qu'en fait, il était pour la construction de cet incinérateur. Eugène Caselli était fortement associé à Jean-Noël Guérini. Aujourd'hui, Eugène Caselli a pris la tête de la communauté urbaine. Il fait brûler, et il va le faire de plus en plus, cet incinérateur. Sur cette affaire précise d'incinérateur, ça montre un peu la méthodologie qui avait cette espèce de double langage et qui était partagée par Eugène Caselli.
Écoutez-moi, sur l'incinérateur, pendant cette campagne-là, je n'ai pas eu le sentiment, enfin, s'il y a eu un double langage, faudra d'abord le prouver. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu. Il y avait d'abord parce que c'était l'objet d'un accord avec les Verts, sur 2004, hein, je le rappelle, sur le fait de dire qu'on était contre les incinérateurs pour un problème de santé publique. Ensuite, qu'il y a eu des choix qui étaient faits, qui aient permis que l'incinérateur arrive quand même, pour les uns et pour les autres, sachant qu'il était déjà construit pour un problème de responsabilité financière, c'est-à-dire que le Conseil Général ne voulant pas payer l'incinérateur qu'il ne voulait pas, ça je n'en sais rien, j'étais pas là pour le coup au cœur de cette décision-là. Moi ce dont je me souviens, c'est que la position du Parti Socialiste dans le cadre de l'accord avec les Verts de 2004 notamment, prévoyait le fait de dire on est contre l'incinérateur.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Jean-David Ciau, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste.
Maire du Puy Sainte-Réparade.
Et le maire du Puy Sainte-Réparade, on en parlait tout à l'heure. Michel Guéraud.
Oui, sur l'incinérateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'évaluer votre parole, la parole politique, et la parole politique des socialistes, des Bouches-du-Rhône en particulier? Caselli avait promis aussi de faire fonctionner cet incinérateur, enfin cet équipement avec de la méthanisation, et finalement il s'avère que ça ne sera pas le cas. Enfin, d'une chose à l'autre, quand même, on a l'impression que c'est... La parole n'a pas de valeur et que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
C'est la kermesse de parolier.
sur la question de l'incinérateur, ça pose un problème politique majeur. Franchement, je le crois. Sur le fait qu'on n'ait pu avoir une position et qu'au fond, on était obligé de revenir une fois président de la communauté urbaine, parce qu'au fond, c'est ça qui s'est passé. Le reste n'étant que des péripéties financières, je ne connais pas, donc je ne peux pas m'étendre. Par contre, moi, je l'avais indiqué, y compris quand on est revenu sur cette décision où Eugène nous avait expliqué en Conseil fédéral qu'il était obligé de le faire pour des raisons financières, parce que l'incinérateur était beaucoup trop avancé et qu'on essaierait de faire de la méthanisation, dont on voit bien aujourd'hui d'ailleurs qu'elle ne fonctionne pas et qu'ils vont effectivement incinérer à 100% si j'ai bien compris ce qui se passait. Je considère qu'on a une responsabilité et qu'on aura une explication difficile à donner vis-à-vis de nos compatriotes marseillais et du pourtour de l'étang de Berre notamment, sur cette question-là où on avait pris un certain nombre d'engagements qu'on n'a pas pu tenir, Eugène Cazilet nous expliquant que c'était pour des raisons financières, qu'il n'était pas capable d'arrêter sous peine de mettre en faillite la communauté urbaine parce que le processus était trop engagé. Je pense qu'on a une responsabilité, on aura une responsabilité de santé publique.
Monsieur Raymond Di, le maire de Fos, continue encore à parler de trahison.
Oui, je considère que René Raymondi peut se sentir trahi sur cette question-là, parce que je pense que vis-à-vis de ces populations, il avait pris l'engagement sur l'incinérateur, qu'il avait vu arriver les socialistes à la tête de la communauté urbaine et l'arrivée d'Eugène Cazelli comme un signe fort qui pourrait arrêter l'incinérateur, et que effectivement sur cette question-là, on a été obligé de renier sa parole, et Eugène Cazelli a été obligé de poursuivre l'incinérateur. On a une responsabilité politique, bien sûr.
Alors continuons à parler un petit peu de cette fédération, et je sais que c'est douloureux un petit peu pour vous. Vous avez évoqué tout à l'heure le rapport Richard qui demandait une refondation des sections. Alors ça, c'est un travail assez titanesque. Est-ce qu'il faut appeler les casques bleus d'abord pour arriver à faire cette refondation? Comment ça va se passer concrètement?
Je dois avoir un casque bleu depuis longtemps. Il ne se voit pas beaucoup sur ma tête, mais c'est toujours une négociation. La refondation, je crois que l'esprit de ce que voulait, de ce qu'avait perçu Alain Richard au cours des auditions qu'il a menées ici, c'était de dire il faut à la fois qu'on continue à aider les élus à se faire élire, c'est l'efficacité électorale, parce que donc il faut qu'ils aient des bases militantes, mais en même temps, cette base militante ne doit pas squeezer le débat démocratique à l'intérieur du Parti Socialiste. Et comme beaucoup d'endroits en France, d'ailleurs, il l'avait indiqué, le fait que beaucoup d'élus aient engagé des troupes militantes derrière eux, ça pouvait squeezer une partie du débat démocratique. Et au fond, c'est ça que j'essaye de mettre en place avec toute la collégialité, et dans le respect à la fois de la feuille de route qui est assez claire du rapport Richard, en maintenant cet esprit-là.
Alors, prenons un exemple concret. Par exemple, une section au hasard, celle de Louise Michel, qui est dans le cœur du centre-ville, qu'est-ce qu'elle va devenir ?
Bah, la section elle-même, elle sera fusionnée avec une autre section, puisqu'on a aujourd'hui fait l'inventaire du nombre.
Avec laquelle ?
Avec la section du 1er arrondissement de Marseille. Donc il n'y aura en fait...
Madame Sportiello, c'est ça ?
Avec, qui est dans la secrétaire de section, et Josette Sportiello. Mmh. Donc la question, c'est de dire, dans le 1er arrondissement, on fait qu'une seule section. D'accord. Donc un seul endroit où on milite, pour que les gens comprennent.
Problème, qui va prendre la tête de cette section ?
Non, problème, c'est d'abord de savoir qui est adhérent du 1er arrondissement. Le rapport Richard l'indique, il dit ce ne sont que les gens qui habitent le 1er arrondissement. Donc
tous les gens, pourcentage toujours
Tous les gens qui habitent le 1er arrondissement militent et participent à la vie politique dans l'endroit où ils habitent. Jusqu'à maintenant, dans les statuts, ce n'est pas obligatoire. Donc on le rend obligatoire dans les Bouches-du-Rhône, avec un pourcentage de 20% de personnes qui pourraient venir parce qu'ils avaient des liens historiques avec cette section, ou parce qu'ils ont habité dans le premier arrondissement, ils y ont travaillé, ils sont élus là, donc ils peuvent participer à la vie du premier. Et une fois qu'on aura ce collège électoral de militants, ils rééliront leur secrétaire de section, qui sera ou l'un ou l'autre, enfin en l'occurrence
comment,
ou l'une
comment vous,
ou l'autre.
Vous allez faire accepter à quelqu'un qui a géré la section, ou dont le père a géré la section depuis des années, vous allez lui dire, bah écoutez... Maintenant, c'est l'arithmétique qui marche et vous avez laissé la place.
Oui, il y aura un vote des militants. Je crois que la question, c'est de est-ce qu'on applique ou pas. Moi, pourquoi je voulais un vote au mois de juillet des militants, à la fois sur le premier secrétaire, pour lui conférer un peu de légitimité dans cette affaire-là.
Vous auriez pu d'ailleurs attendre que les sections soient refaites.
Hein. Ce qui aurait été plus facile, parce que du coup, on les aurait refaites et j'aurais fait. Mais en le faisant avant, ça donne un peu de légitimité pour aller jusqu'au bout de cette affaire. Sinon, il n'y a pas d'autorité, donc personne ne tranche jamais. La deuxième question, c'est de faire voter les principes de cette restructuration pour qu'elle s'applique. Donc aujourd'hui, les principes sont clairement établis par Alain Richard. Donc de dire, un, tous ceux qui habitent dans le premier arrondissement, ils ont le droit de vote. tous ceux, plus 20% des, qui militaient là avant, ils peuvent y revenir, ça forme un collège électoral, se présenteront qu'ils le souhaitent, et sera élu démocratiquement celui qui aura eu la majorité des suffrages. Et si c'est Josette Sportiello, ça sera Josette Sportiello. Si c'est Maude de Boutet, ne pourra pas se présenter puisqu'elle est membre d'une collectivité territoriale, puisque c'est la directrice de cabinet de Patrick Mennucci, donc elle ne pourra pas se présenter parce que le rapport Richard a fixé les règles. Donc si c'est un autre militant et qui fait la majorité, celui qui fera la majorité sera élu. Donc c'est un vote démocratique.
Est-ce que dans le lot de la rénovation de la fédération, le départ de personnages comme Théo Balalas est à l'ordre du jour? Il était d'ailleurs à celui du bureau la semaine dernière, il s'est pris une décision le concernant. Pour mémoire, il s'agit de l'ancien responsable des adhésions de la Fédé, aujourd'hui toujours membre du bureau, hein, et qui est un des fondateurs, le fondateur du Front National à Marseille, et qui a gardé toujours de fortes sympathies pour l'extrême droite, puisqu'il est par exemple... toujours adhérent de l'ADIMAD, qui est un groupuscule d'extrême droite nostalgérique. Enfin voilà, un personnage comme ça, la fédération du Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône, il faut le garder, il faut lui dire, ben maintenant, voilà...
Mais dont le fils est impliqué dans un détournement de fonds au conseil régional.
Oui, le fils qui a fait aussi un AVC et qui est aujourd'hui dans un hôpital légumes. Donc faisons un peu de respect pour les gens.
On peut respecter les gens, mais rappeler les fautes qu'ils ont commises.
La question de certains, notamment alors sur Théo Balalas, moi Théo Balalas était là avant que j'arrive, et certainement même avant que François Bernardini arrive, et certainement même avant que Michel Peset arrive. Donc,
mais c'est un musée cette fédération, c'est...
Les gens, je ne peux pas exterminer les gens, je n'ai pas cette volonté.
Peut-être de leur demander d'être en accord.
S'ils veulent être adhérents du Parti Socialiste, ils peuvent le faire, et que quand ça fait 30 ans qu'ils militent dans un parti politique...
Bon, Malek Bouti a dit on ne peut pas accepter qu'un facho soit adhérent... au Parti Socialiste. Bon, il découpe peut-être l'histoire un peu tard, mais il s'en est rendu compte.
Ouais, je suis toujours étonné qu'au moment où la fédération est quand même dans un moment compliqué et fragile, on ressorte toutes les affaires qu'on connaît tous depuis de nombreuses années. Donc l'affaire de Théo Balalas...
Vous le saviez, vous, qu'il était...
Non,
qu'il
je ne savais pas qu'il était toujours adhérent de la DIRAM. Voilà,
L'ADIMAD.
Donc, d'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était que la DIMAD, pour être très honnête.
Il faut lire Le Ravi.
C'est en lisant Le Ravi que j'ai découvert cela. Non, donc la question se pose de son appartenance. Moi, je lui ai dit, tu peux pas être adhérent à la fois du Parti Socialiste et d'un mouvement d'extrême droite. Il faut que tu fasses tes choix. Tu es adhérent du Parti Socialiste, c'est un choix que tu as fait il y a une trentaine d'années. Il faut l'assumer et ce n'est pas compatible. Sans quoi il a dit qu'il avait démissionné ou qu'il démissionnerait la DIMAT. Bon, il est passé.
Pas la même chose.
Nous vérifions. La question sur cette question-là, c'est qu'il a, la Commission nationale des conflits a été saisie par Malek Bouti. La commission a proposé...
Ça aurait eu quand même plus de gueule que ce soit le premier secrétaire qui la saisisse quand même. Jean-David Ciot, vous auriez pu, en intégrant ce poste de premier fédéral, dire voilà, moi je veux bien prendre ce poste, mais je vais un peu nettoyer.
Elle est faite de manière concominatoire à ma nomination. Donc Malek Bouti le porte. Il le porte. Je veux dire, il me le dit, là aussi, je ne sais pas si... Moi, le combat, c'est celui, ce qu'on disait tout à l'heure, la restructuration des sections pour arriver à un parti qui fonctionne avec un vrai débat démocratique. Ça m'intéresse. L'histoire des uns et des autres, elle est de la responsabilité individuelle, y compris de Théo Balalas. S'il n'a pas tranché ses questions idéologiques, il faut qu'il le fasse. C'est d'ailleurs ce en quoi l'engage la décision de la commission des conflits de vendredi après-midi, qui lui demande de dire clairement qu'il n'est plus adhérent de la DIMAD de ne plus prendre de responsabilité dans le Parti Socialiste. Donc si cette décision est validée par tout le monde, elle sera appliquée dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr. Donc la question, elle est tranchée. Et là aussi, je le dis, elle ne peut pas être l'objet de combats personnels pour dire je lave plus blanc que blanc, moi j'ai nettoyé, etc. Vous ne me trouverez pas sur ce terrain-là. Je peux entendre qu'on fasse des combats pour exister. Je vois bien Malek Bouti en plus prendre les Bouches-du-Rhône comme victime. C'est toujours un bon moment d'exister.
Sur quel combat on va vous trouver? Parce qu'on a cité tout à l'heure Granier. Vous ne preniez pas position, mis en examen.
Je ne prends pas position. Je prends une position qui est celle du Parti Socialiste.
Théo Balalas, qui c'est relativement folklorique quand même. C'est...
Oui. Mais l'édition sera appliquée.
Là, on a un combat quand même de deux députés socialistes, Samia Ghali et Henri Gibrayel, qui ont porté plainte. La commission s'est exprimée avec un blâme. Vous n'avez pas pris position, là encore.
Mais c'est pas une question de... Enfin, il y a des instances de jugement dans ce parti. Je n'ai pas à me substituer aux instances de jugement du parti. Ils ont souhaité, je l'avais indiqué en temps et en heure, ils ne m'ont pas saisi, moi, Samia Ghali, ou d'ailleurs Henri Gibrel, ne m'ont pas saisi Jean-David Ciotte pour dire on veut régler, on a un problème politique ou autre.
Mais vous n'avez pas essayé de faire le juge de paix?
Bien sûr que j'ai essayé de faire le juge de paix, bien entendu. Je vais pas, quand on veut vraiment essayer de faire le juge de paix et se faire entendre les gens, on ne le déclare pas dans la presse, me semble-t-il. Quand on fait une déclaration dans la presse pour dire il faudrait faire ça, c'est qu'on cherche une notoriété politique. Ce n'est pas ma position sur cette affaire-là. Ma position, elle a été d'essayer de trouver un terrain d'entente politique sur un territoire où il me semble qu'il y a des espérances en matière d'avenir politique sur le 15-16 où on pourrait faire attention, parce que l'extrême droite est quand même forte dans ces territoires et le Parti communiste ou le Front de gauche pourrait, au gré de nos turpitudes et de nos divisions, profiter de revenir dans le jeu où il a été très souvent dans ces quartiers-là. Donc je pense qu'en responsabilité, j'ai essayé de les faire entendre. Ils m'ont dit, nous on va aller jusqu'au bout, on veut une décision des instances qui tranchent dans le parti. Donc je ne vais pas commenter, comme je ne commenterai pas la décision. Henri Gibrayel a reçu un blâme pour son...
Concrètement, ça équivaut à quoi, un blâme? C'est juste un avertissement?
C'est un avertissement, voilà. Donc,
alors, autre personnalité sur laquelle vous n'hésitez pas, là par contre, à prendre position, c'est François Bernardini, le maire d'Istres, ancien premier secrétaire, qui avait votre place d'ailleurs, ancien président du Conseil Général, qui souhaite redevenir un socialiste de carte. Là par contre, vous dites non.
Non, je dis pas. C'est pas que je dis non à François Bernardini. Il n'y a rien de personnel avec François Bernardini. Là aussi, François Bernardini a été exclu du parti sur des décisions du parti.
Parce qu'il arrive quand même au Parti Socialiste d'exclure. Hein. C'est rare, mais il arrive.
si, il l'a fait. Il l'a fait avec beaucoup de premiers secrétaires. C'est ce qui était votre première question et c'est ce qui devrait m'inquiéter. Mais un jour, peut-être qu'il m'exclura d'ailleurs. On verra. Et puis, c'est pas au fond, c'est les convictions profondes qui sont les nôtres qui comptent. Les adhérences dans les partis sont souvent le jeu d'appareil et voilà. Sur François Bernardini, non, ce que je dis, c'est qu'on me dit, je suis pas totalement naïf, comme vous avez l'air de le penser, mais on me dit, au moment où Jean-Noël Guérini est dans le jour quasiment où il est mis en examen, ou la veille, ou le lendemain, je ne sais plus exactement, peu importe, François Bernardini, d'un coup, qui avait toujours dit « je ne reviendrai jamais au Parti Socialiste », nous dit « tiens, je veux revenir au Parti Socialiste ». Bon, dont acte, je trouve qu'au moins, le moment était mal choisi. Bon. Deux, ce que j'ai dit, c'est que moi, je suis en plein processus de rénovation de la fédération. Donc je pense qu'il y a des règles. D'abord, on n'adhère pas, quand on est François Bernardini, on n'adhère pas à 20 euros sur Internet en catimini derrière un ordinateur. On le fait au moins au tarif de ses revenus.
C'est-à-dire que
quand on est élu, c'est 300 euros. Donc voilà. Et il faut payer les 10%.
Il aime les nouvelles technologies, peut-être. Il est fan des...
Voilà. J'ai pas pensé que c'était ça la motivation. Mais je me suis certainement trompé.
Donc, c'est message à François Bernardini, il faut qu'il donne 300 euros, c'est ça.
Il demande son adhésion à sa section. Il y a un processus. La section se prononce.
Il l'a fait, ça.
Sa section, il l'a fait parce qu'on lui a dit qu'il fallait quand même qu'il respecte un peu les règles. Quoi. Il peut pas s'en... Je sais qu'il s'en est longtemps un peu moqué, mais il ne peut pas, il peut plus le faire. C'est ça la rénovation. Après, la question que je pose est une question politique. C'est est-ce que au moment où on essaie de rénover, où on essaie de dire qu'il ne faut plus les menaces, où il ne faut plus le fait qu'il y ait des hommes politiques qui se comportent avec des territoires qui leur appartiennent, où François Bernardini a été le chef d'orchestre de tout ça pendant 10 ans dans les Bouches-du-Rhône. Moi, j'ai refusé de siéger au Parti Socialiste, enfin la direction du Parti Socialiste pendant ces 10 années pour ces raisons-là. On nous explique que le retour de François Bernardini, ça serait la rénovation. Je ne le crois pas. Voilà, je crois que si on veut être dans un climat un peu apaisé, François Bernardini ne représente pas la rénovation et le renouveau dans le Parti Socialiste. Je pense qu'il y a assez de forces vives qui doivent le faire. J'invite tout le monde à rejoindre le Parti Socialiste, tous ceux qui le souhaitent, pour le changer. Mais certainement pas les vieux dinosaures de la politique qui ont vraiment montré que c'était pas ça leur enjeu.
Alors, lorsque dans les Bouches-du-Rhône, les primaires ont été un succès, c'est vrai, et que Arnaud Montebourg obtient 21%, c'est-à-dire au-delà de sa moyenne nationale qui était déjà assez élevée, quasiment un électeur sur quatre, vous vous réjouissez? C'est quelque chose de nouveau qui s'exprime, une attente? Ou alors c'est plutôt des gens qui vous font passer le message en disant « accélérer la rénovation ». Il faut aller plus vite, il faut que ça change.
Ou alors, c'est la théorie du complot où vous dites qu'il y a de l'entrisme et la droite a envoyé ses cadres.
Non, je ne crois pas à la théorie de l'entrisme. Il y avait trop de monde qui a voté. Je ne pense pas que la droite et l'UMP sont en capacité d'avoir une telle mobilisation. Ils sont bien trop faibles localement.
parle Bruno pas... Gilles s'est vanté, je crois, d'avoir...
envoyé 50 personnes, la belle affaire. Il faudra savoir si en, qu'est-ce qu'il leur avait promis en contrepartie, des embauchés où.
Voilà. Non, mais allez, les 21% ne sont pas uniquement boutade. Sur Marseille, c'est un peu partout.
La question, effectivement, on aurait pu se poser. Je me suis posé la question. Moi, j'ai vu commencer par voir les bureaux de vote des Bouches-du-Rhône en me disant, tiens, il y a un signe particulier dans les Bouches-du-Rhône. Je ne pensais pas qu'Arnaud Montebourg serait à ce niveau-là. Et du coup, j'ai regardé en France, c'est à peu près le même niveau. Je vois que dans le Vaucluse, il a même dépassé les Bouches-du-Rhône. Donc, ce n'est pas, je pense, un problème local.
17% en moyenne nationale, 21% dans les 13.
Voilà, et 22% dans le Vaucluse. Donc, je pense que ce n'est pas un problème local. Je pense que c'est un problème. Et je l'ai dit d'ailleurs le jour même, mon analyse a été celle-là immédiatement après le vote. C'est de dire qu'il représente une aspiration au changement, clairement. Il représente un effet générationnel. Et je crois qu'il faut écouter, y compris un certain nombre de propositions qu'il a faites en matière de démondialisation, en tout cas ce que lui appelle la démondialisation, même si on pourrait avoir une analyse un peu différente, notamment sur le système financier international, où là, pour le coup, c'est plutôt un sujet qui m'intéresse, où il a fait un certain nombre de propositions, plus ou moins d'ailleurs assez fortes, mais pas forcément applicables, sur lesquelles je crois que le Parti Socialiste devrait réfléchir, et sur lesquelles nous serons jugés. Moi, je crois que, au fond, le résultat d'Arnaud Montebourg, qui est souvent dans des croisades, et là aussi, la preuve que le Parti Socialiste peut s'exprimer et peut dire un certain nombre de choses un peu différentes, suivant les personnalités. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé, le fait qu'Arnaud Montebourg, enfin, mon résultat.
Lui aussi, désolé, mais dit les socialistes dans les Bouches-du-Rhône ne pourront rien faire de bon tant que Jean-Noël Guérini sera en place. Hein,
les Verts vont plus loin parce que c'est sa position. Il demande carrément le départ de tous ceux qui ont collaboré avec Guérini.
Oui, mais j'ai vu que les Verts demandaient aussi le départ de Wyszynski, alors je ne sais plus qui il faut croire.
On voit quand même, on parle depuis tout à l'heure de Guérini, on parle des affaires, on parle de la fédération avec certaines personnalités plus ou moins douteuses. Tout ça, c'est un système, le système de fer. C'est l'héritage. On a fêté, vous avez commémoré il n'y a pas très longtemps la mort de Gaston Defer. Finalement, le système, lui, perdure et c'est ce qui plombe un peu cette ville, au-delà du Parti Socialiste même. Est-ce que les choses sont en train de changer?
Moi, ce que je crois, c'est que les choses ont considérablement changé. Et je vais même vous surprendre. Je pense qu'elles ont changé à la mort de Gaston Defer, y compris avec Michel Peset, où il y a un certain nombre de choses qui se sont réformées dans le Parti Socialiste. Elles ont même changé avec François Bernardini. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont arrêtées, me semble-t-il. Elles se sont vraiment réformé après Bernardini, notamment sur la structure des militants des Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, il y a une phrase au fond, c'est la seule qui m'importait vraiment dans le rapport, Richard, c'est de dire la structure des militants n'est pas contestable. Il y a des vrais militants et ce sont des vrais militants. Et ça, c'est au fond ce qui a changé, où on est passé d'un système qui était totalement verrouillé, où je me dis toujours la blague qu'on me racontait quand j'étais jeune. Moi, je suis arrivé en 85, donc la fin de Gaston, où on me disait tu es au Parti Socialiste, non, tu es dans le bottin, oui, alors tu es au Parti Socialiste. Je pense que cette question-là, aujourd'hui, n'existe plus. La question des militants. Après, est-ce que tous les militants, les adhérents des Bouches-du-Rhône sont des militants actifs, engagés politiquement? On peut poser cette question-là, mais en tout cas, ils ont tous une vérité de venir au Parti Socialiste, d'essayer d'y partager, de trouver un certain nombre de choix et de discussions.
L'émission va bientôt se terminer. Quelques mots quand même sur la séquence électorale qui démarre, et pas la moindre. Enfin, alors les présidentielles, François Hollande, la Fédé a été peut-être d'obligation assez neutre dans la primaire. Ne l'a pas trop exprimé, on l'a pensé proche de Martine Aubry au départ. François Hollande, bon candidat, les sondages le donnent très haut, Nicolas Sarkozy remonte un peu. Vous êtes optimiste à ce jour?
Moi, ce que je constate, d'abord, c'est que sur la primaire, oui, j'avais volontairement organisé ma propre neutralité parce que il me semblait que dans le contexte que nous vivions, il était plus raisonnable que la fédération soit d'une grande neutralité pour que le vote se passe bien et que chacun puisse s'exprimer en fonction de sa liberté. C'était l'engagement que j'avais pris. Ça, c'est la vraie rénovation. Ça, c'est des actes forts, me semble-t-il, de dire on n'essaye pas d'influencer, on n'essaye pas d'organiser, de manipuler quoi que ce soit. On est dans le libre arbitre. On le doit à nos concitoyens qui, eux, ne se sont pas encartés. Et je crois que c'est ce qui s'est passé en Bouches-du-Rhône. Dont acte. Concernant François Hollande a été désigné, ça sera le candidat candidat des socialistes. Moi, il me convient bien pour un problème, un rapport à la social-démocratie que je porte depuis un certain nombre de temps. La réalité, c'est que la campagne maintenant va être longue, que Nicolas Sarkozy a bien compris que, comme nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes extrêmement en difficulté pour exprimer un certain nombre de choses. Et j'entendais ce matin Guéant qui nous annonçait que carrément il serait candidat la veille du scrutin, alors qu'il fait avec les moyens de l'État, la campagne, il fait des déplacements toute la journée. Donc je crois qu'effectivement, François Hollande va avoir cette difficulté à gérer, celle entre un président de la République qui va reprendre son activité hyperactive en promettant tout à tout le monde, en montant les Français les uns contre les autres, et celle d'un François Hollande qui sera en capacité d'être responsable et force de proposition pour la France de demain, ce qui sera effectivement...
Vous avez évoqué tout à l'heure la social-démocratie qui vous convenait. Est-ce qu'aujourd'hui la social-démocratie est en capacité de gagner ses présidentielles? Au niveau local, on voit le député UMP local, Dominique Tian, qui dit chez nos confrères de la Provence, il faut se droitiser. Vous pensez que les socialistes doivent se gauchiser davantage ou rester dans une espèce de centrisme?
Non, d'abord, la social-démocratie, c'est pas le centrisme. Je crois pas qu'il faille... c'est comme ça qu'il faut traduire les choses. Ce que je crois, c'est que la droite, aujourd'hui, est en perdition de voix parce que, effectivement, les gens ne croient plus en Nicolas Sarkozy.
Je rappelle les derniers sondages. François Hollande était à 30%, Sarkozy est à 29%.
Parce que...
Au premier tour.
Il faut prendre avec des opinions négatives de l'ordre de 48 ou 50% pour Nicolas Sarkozy. Donc il y a plus de la moitié des Français quasiment qui aujourd'hui ont une opinion négative de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas le cas de François Hollande, ce qui lui permet de faire un deuxième tour de meilleure qualité, enfin en tout cas de pronostic. Non, la question sur cette affaire, c'est que la droite aujourd'hui, effectivement, est en dérive idéologique et qu'elle est obligée, et ce qu'on va avoir droit comme on a droit à chaque fois, on gère comme on gère, on monte les Français les uns contre les autres, et au moment du vote, effectivement, Nicolas Sarkozy va appliquer sa stratégie de toujours, c'est je conforte mon électorat traditionnel de droite, c'est la droite populaire, avec tous les excès, je pense qu'on y aura droit encore sur la récidive, avec ce qui s'est passé hier soir, où tous les faits divers serviront à faire une loi, une énième loi qui ne règle pas les problèmes. Qui ne règle pas les problèmes des Français. La question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les Français vont encore croire à cette stratégie de la surenchère permanente, ou est-ce qu'ils pensent qu'il est nécessaire d'avoir un discours responsable face à une crise énorme qui est encore devant nous pour redresser cette France qui va mal?
Alors on a l'impression que le Parti Socialiste, après le succès des primaires, revient sur des logiques un petit peu hégémonistes. Et les discussions avec les Verts, un de vos partenaires naturels, si j'ose dire, ont été très compliquées, très douloureuses. Et l'accord qui est sorti fait réagir un peu partout. Alors est-ce qu'il passe bien? Alors évidemment avec le cas particulier de la Fédé 13 qui est presque dédouané de ce qui va se passer, mais cet accord par exemple, ça va être un problème? Est-ce qu'il va y avoir des dissidences aux législatives? Est-ce que vous allez réussir à vous entendre comme ça avec ce nouveau partenaire, par exemple localement, les écologistes?
Alors sur la question électorale, moi j'ai pas de difficultés particulières avec les Verts, ça sur un accord qui permettra à eux d'exister sur les territoires où ils ont, je l'ai toujours dit, ils ont vocation à exister sur des territoires où ils font des voix. C'est ma position depuis le début. Dans l'accord qui se traduit, c'est vrai que les Bouches-du-Rhône étant sortis de l'accord et l'accord étant déjà signé, ça sera plus compliqué de trouver un accord.
D'ailleurs, si un concurrent potentiel qui souhaite se présenter malgré l'opposition de Solferino, il fait comment? Quels sont ses recours?
Aucun.
Okay.
Là, il y aura un vote, non, mais c'est toute la question. C'est la question de mon abstention sur cette question-là. C'est que j'aurais aimé quand même voter un accord où je sache où se trouvent les Verts sur l'échiquier des Bouches-du-Rhône. Je ne le sais pas. C'est bien ça, la difficulté. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens qui vont se retrouver imposer un candidat vert dans la circo sur laquelle ils souhaitaient aller et qui pourront pas y aller.
Jean-David Chiou, ça va être un peu, excusez-moi le terme, ça va être un peu le foutoir, non? Certains vont partir avec ou sans le label PS.
Je pense qu'on va dans les Bouches-du-Rhône vers une situation conflictuelle. Au jour d'aujourd'hui, il faudra voir comment ça se traduit au mois de juin. Il est bien évident que si on gagne ou pas l'élection présidentielle, ça sera un petit peu différent que d'une situation où on la gagne pas. Hein. Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de faire un accord électoral. Sur le fond, il y aurait certaines choses à dire hein, sur les accords. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées où on voit bien que les Verts et le Parti Socialiste ont plutôt des positions position commune sur le front social, sur un certain nombre de grands sujets de société. Reste quelques désaccords. Reste quelques désaccords constatés, même si sur la question du nucléaire, il y a un accord qui a été trouvé. Sauf sur deux sujets liés au nucléaire, la survie de l'EPR et la filière MOX, qui, je le rappelle, la filière MOX, on ne peut pas dire qu'on est pour le maintien de l'EPR et contre le maintien de la filière MOX, puisque c'est le MOX qui sert d'énergie pour l'EPR.
Alors, sur votre gauche, il y a aussi le Front de gauche et un Mélenchon qui a des phrases assassines avec, par exemple, la fameuse expression sur le capitaine de pédalo au sujet de François Hollande. Enfin, est-ce que ça va être gérable pendant les mois qui arrivent?
D'abord, je pense que Jean-Luc Mélenchon ferait bien de regarder quel est son vrai adversaire, si c'est le Parti Socialiste ou si c'est la droite. Et il ferait bien de regarder où est son électorat et d'aller plutôt essayer de convaincre l'électorat populaire plutôt qu'essayer de racler l'électorat socialiste qui, à mon avis, de toute façon, il ne viendra pas voter pour lui. La deuxième chose, si Mélenchon était compétent, il saurait, et j'en suis désolé pour lui, qu'il n'y a pas de capitaine sur un pédalo.
D'accord. Un mot peut-être sur la ville où l'on vit, Marseille en l'occurrence, aujourd'hui, dans la Provence, le député Guy Tessier UMP qui dit ouvertement sa volonté de conquérir pour 2014 et qui ajoute cette ville est gérée au jour le jour, elle n'a pas de capitaine, là on revient à un capitaine là encore. Vous vous dites finalement la droite, elle est aussi éclatée que la gauche et les problèmes sont devant nous.
D'abord, je partage un peu l'avis de Guy Tessier sur la question du manque de capitaine sur la ville et sur la lisibilité de l'action politique sur cette ville. Je ne veux pas revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et au fond, c'est un peu la question que soulevait Guérini la semaine dernière sur quelles sont les politiques publiques pour nos concitoyens. Évidemment, j'ai toujours dit, sur le dernier conseil municipal, le fait majeur de ce qui s'est passé, tout le monde l'a relevé, mais enfin, ne le voyant en faisant semblant de ne pas voir la gravité de la situation, c'est l'éclatement de la majorité à la mairie de Marseille avec un vote différencié entre sur la question du parc national des Calanques, sur la question entre Guy Tessier et Renaud Muselier, qui n'était qu'une question de positionnement de Renaud Muselier pour dire j'existe et je suis en division avec Guy Tessier. Donc je pense que la vraie question, c'est que Jean-Claude Gaudin n'arrive plus aujourd'hui à cimenter sa majorité, et le vote républicain qu'il a toujours eu, pour la première fois, il est totalement écorné. Je pense, me semble, que ça sera une grande difficulté pour la droite, où je vois bien que Guy Tessier est candidat quoi qu'il arrive à la mairie de Marseille, ainsi que Renaud Muselier, et donc j'ai pas le sentiment que Jean-Claude Gaudin d'ailleurs n'est plus candidat à la mairie de Marseille.
Vous-même, vous aurez votre mot à dire en 2014 pour le choix du candidat ?
Oui, sur le choix du candidat à la fédération. J'en avais de sûr que je ne sais pas, mais en tout cas la fédération aura...
J'en avais de sûr que je posais la question, en l'occurrence.
Oui, j'en avais de sûr aussi, mais ce que je crois, c'est que la fédération aura un poids à jouer dans cette affaire-là.
Les candidats qui se dégagent, quelles sont les modalités pour fabriquer un candidat alors qu'on est très très court là ?
Moi, ce que je crois, c'est que la question sur les grandes villes, je pense à Aix et je pense à Marseille, on pourrait imaginer, avec un accord national, qu'elle soit faite sur une forme de primaire. C'est-à-dire, je pense que quand il y a un électorat assez puissant, comme à Aix où il y a plus de 100 000 habitants, comme à Marseille où évidemment il y a quasiment 1 million d'habitants, je pense que la question de la primaire peut se poser pour départager ou pour créer un véritable leadership. Voilà.
D'accord, des primaires pour les municipales, des primaires également pour les législatives ?
Non, parce que sur les législatives, l'enjeu territorial est moins fort. Donc je ne crois pas que des primaires régleraient la question. Seuls les militants viendraient voter, au fond.
Un mot peut-être toujours sur les législatives. Les candidats vont envoyer leur nom, j'imagine, avec leur CV à la rue Solferino. Vous allez envoyer le vôtre, vous êtes candidat ?
Pour l'instant, je n'ai pas encore pris ma décision.
On parle de la 14e ?
Oui, mais je ne suis pas sûr d'être candidat dans la 14e, dans les conditions où on ne respecte pas le vote des militants, et je ne veux pas être l'objet d'un chantage pour me faire désigner par Paris. Voilà, donc ça veut dire que soit on trouve un minimum de consensus, soit j'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections. C'est pas, il n'y a pas de fête du premier secrétaire.
Vous prendrez votre décision quand ?
Je prends des missions dans les jours qui viennent, puisque je pense que la décision des Bouches-du-Rhône sera reportée de quelques temps.
Donc vous êtes candidat dans les jours qui viennent ?
Non, je ne suis pas certain d'être candidat, mais vraiment pas.
D'accord. Jean-David Thiot, je vous remercie. Merci. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. En attendant, lisez leur avis et surtout, abonnez-vous. Bye.